So you call yourself a fan? But tell me something. Do you know your Backmans from your Abrahams? Or your Jepsons from your Klopps? The People's Club needs all its people. You'll never walk alone, and neither should they. It's only united when we are. Get the idea? Because when you support a club, you support all of it. Watch the Barclays FA Women's Super League on Sunday, the 17th of November. Visit thefa.com/Women's Football Weekend. It's all to play for.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas de la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Scuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
Nicolas Jamain.
Et oui, l'after est là jusqu'à minuit, bien sûr. Bienvenue si vous nous rejoignez. On est à la télé sur RMC Sport News et bien sûr à la radio sur RMC avec Jonathan Macardy, avec Ludovic Obraniak. Il a la niaque ce soir. T'es arrivé tout à l'heure, coulisses. Je suis fatigué et le mec, il est en feu. Ouais. Il est en feu sur les bleus, tu sais.
Il s'est pris ses billes.
Ouais, j'ai pas envie. Et boum.
Il a bien mangé, il s'est bien fait rasoir. Il est tout bronzé derrière, il est tout bon, tu dois ce soir, pour ceux qui ne voient pas.
Et surtout rouge.
Mais sur lui, ça va.
Antoine Griezmann anime notamment les réseaux. Le hashtag RMC Live également. C'est vrai que c'est un sujet. Soit certains sont inquiets pour Griezmann, parce que, on va pas se mentir, c'est peut-être notre meilleur joueur, un de nos trois meilleurs joueurs en France.
C'est le meilleur joueur.
Aujourd'hui.
Non, mais il n'y a pas de débat. C'est le meilleur joueur de l'équipe.
Il y a des débats avec Mbappé.
Mais non, il n'y a pas de débat. C'est le meilleur joueur de l'équipe de France.
C'est le rouage essentiel. C'est-à-dire que si lui, il n'est pas là. C'est le ciment de ton équipe. Et voilà, c'est lui qui,
ouais, moi c'est le
qui
meilleur.
Fait tourner la maison, le maître, voilà, à jouer, voilà, si tu préfères.
Griezmann, eh bien, effectivement, il est en. Pas en disgrâce, on n'en est pas là encore au Barça, mais c'est extrêmement compliqué. Tiens, je voulais qu'on écoute, avant d'évoquer la forme de Griezmann et comment vous le trouvez actuellement, et évoquer son avenir, surtout cette saison, Eric Collas. Eric Collas, c'est l'ancien conseiller, c'était un peu son maître spirituel. Il a pris gamin adolescent, il l'a amené à la Real Sociedad, il l'a entouré, il l'a accompagné, il l'a fait progresser également en le faisant travailler individuellement. Mmh. Quelqu'un qui était extrêmement proche de Griezmann, qu'il est moins aujourd'hui. Écoutez ce qu'il dit du choix de Griezmann de rejoindre le Barça cet été.
Si la situation perdure, parce qu'il y a d'autres joueurs aussi sur le côté gauche, et puis que quelque part il ne s'épanouit pas, bon, je pense que vous avez été joueur, ben, quand ça ne va pas, que tu ne joues pas, tu sais qu'est-ce qui est envisagé derrière, hein, éventuellement.
De partir, donc.
Voilà, j'ai l'impression que, connaissant le garçon quand même, parce qu'il n'est pas complètement idiot non plus, il est plutôt même intelligent, j'ai l'impression qu'on lui a vendu initialement un projet où il allait occuper un poste avec ses qualités, en complémentarité avec Messi, et que, bon, ben, ça se passe pas exactement comme c'était prévu, peut-être avant que ça démarre.
C'est fort ce qu'il dit, hein. Ça se passe mal comme c'était prévu avant que ça démarre.
Bah, c'était prévu, pourquoi? Parce qu'Antoine Griezmann, sur un côté, c'est donner de la confiture au cochon. Et dans la mesure où tu arrives au FC Barcelone, où il y a Messi et Suarez, qui, même s'il est plus sur la fin que sur le début, mais qui reste quand même performant, t'as pas de place dans l'axe, dans le système de jeu du FC Barcelone, tu t'attends déjà, sur cette année-là, du moins, à avoir des difficultés. Après avoir comment ça évolue, je pense pas qu'il soit allé au FC Barcelone pour juste se barrer après une saison si ça va pas.
Certains l'ont fait déjà.
Non, mais on sait pas, parce que.
D'autres l'ont vécu, non, hein. Une saison, des Thierry Henry, Ibrahimovic, comparé à ça.
Il a fait une saison, Thierry Henry, il a fait plusieurs.
Deux?
Il a fait plusieurs saisons, Thierry Henry.
Deux.
Non, mais pour moi, c'est très simple. Antoine Griezmann, c'est le remplaçant naturel de Luis Suarez à la pointe de l'attaque du FC Barcelone. Alors, vous allez me dire que c'est pas un pur numéro 9, mais pour moi, c'est un joueur d'axe. Et là, pour l'instant, il est bloqué, parce qu'il joue sur le côté, parce que les relations techniques avec ses deux coéquipiers stars, Suarez et Messi, elles sont quasiment inexistantes. Il suffit de voir, il y a plein de gens qu'on fait tourner ça sur Twitter, c'est très intéressant. Des palettes où tu vois le nombre de passes entre les trois là, et tu vois que Griezmann est totalement exclu de la relation technique. Il doit faire le rond. Ça doit être très compliqué à vivre pour lui, cette situation-là, parce qu'il est passé dans un club où c'était un petit peu la figure de proue d'une grande équipe européenne, à savoir l'Atlético Madrid, et où l'entraîneur faisait tout pour le mettre dans les meilleures dispositions tactiques possibles. On se rappelle, hein, le retour de Diego Costas, c'est pour Antoine Griezmann. C'est pour qu'Antoine Griezmann ait quelqu'un qui déménage, fasse le ménage pour lui dans l'axe. Donc là, voilà, on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Et je pense que, même si pour l'instant on a des raisons d'être inquiet, je pense qu'au final, vu la classe et le talent du garçon, il va arriver à s'en sortir et il en sortira grandi par la suite.
Mais s'il reste à gauche, pour les Bleus. Voilà. Effectivement, t'as n'importe quoi. Trois saisons au Barça, Henri. Vas-y, Ludo.
Je rejoins un peu son conseiller, même si quand t'as été le conseiller. Tu viens t'exprimer sur le plateau. Bon, voilà, je prends des propos à prendre avec des pincettes. Mais c'est vrai que au départ, je me suis dit, Messi, il est en train de lui donner une petite leçon. Parce que souvenons-nous quand même qu'un an avant ou deux ans avant, je crois que c'était un an ou deux ans, je ne sais plus.
Un an avant. La décision.
Il fait sa connerie monumentale avec son documentaire à la con.
Vous voulez faire comme LeBron James.
Où ce documentaire lui aura fait plus de mal qu'autre chose. Et là, il humilie un peu le Barça parce qu'il aurait apparemment donné sa parole. Il attend le dernier moment pour annoncer que finalement, il reste à l'Atlético. Ouais. Messi, c'est le Barça. Le Barça, c'est Messi. Donc je suppose que Messi a dû très mal prendre cette espèce de show un peu...
D'avoir utilisé le Barça... Il a utilisé le Barça pour négocier son énorme augmentation de salaire aussi. Avec les Chinois de l'Atlético.
Je pensais que Messi, au début... alors après, il y a le système de jeu, hein, il y a tout ce qui va avec aussi, où là, c'est pas le meilleur des choix non plus. T'es dans un 4-3-3 où tu sais que tu vas jouer forcément sur un côté. T'as aussi l'épisode avec Neymar où tu sens que le Barça, en début de saison, s'ils avaient pu échanger Griezmann, le passer à Paris pour récupérer Neymar.
Plus que le Barça, Ludo. C'est surtout Messi qui a fait le fortune pour que Neymar revienne. Donc de base, tu vois, ça met pas Griezmann dans les meilleures des conditions.
Là, tu t'arrives au milieu de tout ça, tu dis attends, je suis quand même champion du monde. Et les mecs, ils me traitent comme si j'étais le joueur du coin, quoi. Tu vois,
un boucherou.
Et c'est vrai que ça doit être dur pour lui. Et l'erreur qu'il fait aussi, c'est que quand il arrive, il cire trop les pompes. Tu vois ce que je veux dire ? À un moment donné, t'arrives. Faut montrer aussi.
Il a voulu montrer pas de blanc, je pense.
Mais t'es champion du monde, oh. T'es champion du monde.
C'est Griezmann.
T'es l'Atlético. T'as fait 2-3 finales de Ligue des Champions.
T'as gagné l'Europa League.
Griezmann, il n'est pas une. Voilà.
Nico, le mec, il arrive. Messi, il lui a ciré les pompes. Mais ça faisait faux. Tu vois, ça faisait trop. Tu vois. Garde ton caractère, c'est un mec qui a de l'intelligence, qui a du caractère. T'aurais pas dû en faire des tonnes comme ça. Il en fait toujours des
exactement.
Tonnes.
Exactement. Là, t'as totalement raison. Surtout qu'il arrive auréolé d'un statut de champion du monde, auréolé d'une victoire en Coupe d'Europe avec l'Atlético de Madrid.
Peut-être c'est aussi un peu de jalousie. Ce fameux match avec l'Argentine où ils font passer à la trapinette les Argentins.
Peut-être.
Donc il y a un peu de tout ça.
C'est certainement le meilleur joueur. Allez, pour moi, c'était le. Je pense qu'il aurait dû avoir le Ballon d'Or. Mais là où Ludo a totalement raison, c'est que en fait. Ça, on le dit pas assez. C'est son comportement dès le début qui, pour moi, Ludo l'a très justement souligné, a conditionné la suite. Il est arrivé en position de victime, pas en position conquérante, pas en position d'un mec qui a une paire de couilles et c'est l'after. Qui a du charisme et qui est sûr de lui. Et donc, forcément, tu sais ce que c'est l'effet de groupe. Quand t'as un mec que tu sens un peu faible et que tu l'aimes pas, peut-être que t'as quelques griefs contre lui, tu lui mets la misère. C'est tout bête, mais c'est comme ça de partout.
Je dis ça, c'est facile, hein, derrière le micro. Quand t'arrives dans un vestiaire le Barça, c'est pas simple. Mais je pense, il aurait dû le choper tout seul dès le départ. Ils auraient dû. Mais je trouve qu'il lui a trop ciré les pompes dans la presse.
Tu mets les choses au clair dès le début.
Tout de suite, je sais pas. Il a mal géré le truc. Et les choses, ont tendance à s'envenimer parce que tu sens que, alors qu'il devrait avoir une
il devrait avoir
une relation extraordinaire. T'as vu hier, on parlait d'hier de. Ouais. Quoi retenir du match d'hier? T'as vu la relation Mbappé-Griezmann? Quand Mbappé a envie de jouer simple et que lui aussi, les redoublements de passes à un moment donné sur le corner, comment ils arrivent à se trouver. Messi, il pourrait profiter de cette intelligence de jeu d'Antoine Griezmann. Donc je sais pas comment ça va se passer tout ça, mais il est clair que si ça continue,
élément, c'est que Lionel Messi a toujours eu du mal avec des joueurs qui sont un peu dans son registre et qui pourraient peut-être lui voler la lumière. On l'a vu en sélection. Ouais. Il n'y a pas forcément de bisbille entre Messi et Dybala, mais ça a jamais fonctionné en Argentine. Pourtant, ça a été essayé d'associer les deux.
Il a été un Coutinho, un bon joueur.
Et Griezmann a typiquement ce profil de joueur
qui rentre à l'intérieur, qui viennent jouer sur ces plates-bandes.
Ouais. Et surtout, un dernier élément que je trouve, je sais pas trop comment l'interpréter, je vous pose la question à vous deux. En fait, le seul bon match de Griezmann au Barça, c'est quand il n'y avait ni Messi ni Suarez. Vous vous rappelez là où il met les paillettes contre le Bétis ?
Quand il est en pointe.
Il jouait contre Nabil Fekir, où il jette les paillettes. Mm. Et là, tout le monde pensait que c'était parti Antoine Griezmann au Barça. Et il a suffi que les deux reviennent. Mm. Et on ne l'a plus jamais vu refaire un match de ce calibre-là. Alors, je ne sais pas comment l'interpréter. Ouais. Est-ce que c'est lui qui.
Est-ce que c'est le système ? Pour lui, il y aura beaucoup de clubs qui seront ravis de l'accueillir.
La question, c'est est-ce que c'est le système ? Est-ce que c'est la complémentarité avec Messi et Suarez, ou est-ce que c'est lui qui se met trop la pression quand tu joues avec Messi et Suarez? J'arrive pas à savoir.
Les trois.
Maxime arrive dans un instant, tourne 16, il a son avis sur Antoine Griezmann, bien sûr. Tiens, je vous rappelle que RMC vous fait gagner, eh bien, une soirée ici, Ligue des Champions, en plateau, Champions Zone, pour le 27 novembre, mercredi 27 novembre, c'est avec Chronopost, vous pouvez venir ici, vous verrez les coulisses, vous serez en plateau.
Sénat, c'est pas avec nous.
Avec Christophe Dugarry, Jérôme Rotten,
Super,
vous verrez Jean-Louis Tour.
Ah, c'est un cadeau, ça aussi. Sûr.
Pour cela, vous envoyez top par SMS au 732-16, top par SMS au 732-16.
Ce qui est bien, c'est que.
Bonne chance!
Ils peuvent venir en
soirée. Découvrez les coulisses des studios lors de votre soirée foot avec Chronopost, livreur d'émotions.
Salut Maxime!
Bonsoir Nico, bonsoir Ludo, bonsoir Duo.
Salut Maxime. Et bienvenue à l'after, Maxime. Merci d'avoir appelé au 32-16. Vas-y, tu veux pas de Griezmann, évidemment. Toi, je ne sais pas ce que tu penses sur l'idée d'aller au FC Barcelone. Est-ce que ça peut le jouer des tours sur cette saison déjà, forcément?
Moi, en fait, je vais faire un petit peu une synthèse de ce qui a été dit entre Ludo et Jonathan McCarthy. Puisque, bon, tout a été à peu près plus ou moins dit au cours du débat. Moi, je pense que l'arrivée de Griezmann à Barcelone, ça a été une erreur. Une erreur monumentale que Griezmann a commise de sa part. Parce que, de par son profil, il n'a absolument pas le profil pour jouer dans un système en 4-3-3 à la Barcelonaise, à moins que, et je dis bien à moins que, ni Messi, ni Suarez ne sont présents, et ça je crois que c'est Jonathan McCarthy qui l'a dit, qui l'a souligné, qui l'a très bien souligné. Ensuite, j'ai entendu dire, alors je ne sais plus si c'était Ludo, si c'était Joe qui l'avait souligné, mais vous aviez fait une liste des différents grand nom du sport, des attaquants et autres qui sont arrivés à Barcelone, Henry, Ibrahimovic, Coutinho, etc.
Dybala avec l'Argentine aussi.
Dybala avec l'Argentine, pas avec Barcelone avec l'Argentine. Ouais. Mais et on pourrait même souligner tout simplement Mauro Icardi avec l'Argentine parce que Messi a quand même obtenu plus ou moins sa tête parce que
oui, c'est vrai, clairement. Pour des raisons personnelles, il a obtenu plus ou moins sa tête.
T'as raison, évidemment, mais intime. Il a obtenu sa tête.
Et même celle un peu de Tevez aussi.
C'est une garce, en fait.
Exactement. Mais c'est de dire, en fait, que ce soit en Argentine, ou avec le Barça, Messi fait un petit peu appuyer le beau temps. Et je crois que c'est toi, Joe, qui l'a souligné, c'est qu'en fait, Messi, Edin, il ne supporte pas qu'on vienne faire sur ses plates-bandes. C'est pour ça que tout Thierry Henry qu'il était, tout Neymar qu'il était, ils ont été obligés de s'exiler sur le côté gauche pour laisser place à Messi dans l'axe et à Suarez en pointe centrale. Et comme tu l'as souligné, le seul grand match de Griezmann, c'est quand les deux n'étaient pas là. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut pas oublier quand même que Messi est, à mon sens, alors c'est peut-être un peu fort, mais c'est quand même un peu un despote à Barcelone, c'est-à-dire que c'est quand même lui qui fait le choix de
l'entraîneur.
Tata Martino à Barcelone, c'était quand même son choix à lui. Le faire sauter Coutinho à Barcelone, c'était encore le choix de Messi.
Exactement.
Parce que Coutinho, au départ, il n'arrive pas sur le choix de Messi. Il arrive parce que les socios du Barça et parce que le président, je crois que c'était Bartolomeu, a voulu l'arrivée de Coutinho pour alimenter en bon ballon l'attaque. Mais sauf que ça volait quelque part un peu
la
lumière et la vedette, quoi.
T'as raison.
Et moi, je vais te dire, Joe, et puis Ludo aussi, moi, j'ai vraiment crainte qu'étant donné que Griezmann joue à même pas 50% de son potentiel, on peut dire qu'il a ciré les pompes, qu'il n'a pas fait preuve de charisme ou de ce que tu veux. Le problème, c'est que quand tu arrives à Barcelone, jusqu'à ce que Messi prenne sa retraite, on ne peut pas prendre la place de Lionel Messi. C'est absolument impossible. C'est lui qui décide des présidents, c'est lui qui décide des joueurs. Il fait presque président, entraîneur, il fait presque tous les postes.
Maxime, je suis pas sûr que Griezmann vienne à Barça pour prendre la place de Lionel Messi, quoi. D'autres pointures sont arrivées
au Barça. Il avait pensé être un bon général. Voilà, un bon soldat.
Ce que disait le conseiller ou l'ancien conseiller de Griezmann, je pense qu'on lui a vendu le projet non pas de prendre la place de Messi parce que tu peux pas lui prendre sa place, mais du moins qu'il serait, peut-être pas un rôle de doublure, mais en tout cas dans un rôle d'une sorte de numéro 10 et que sur un moyen terme, il pourrait prendre la place de Messi quand il prendrait sa retraite. Sauf que en fait, ce que l'on constate, c'est que Messi lui fait plier un petit peu son refus de venir à Barcelone la dernière fois, et puis surtout, je pense que c'était 2 ans auparavant, donc juste après l'Euro 2016 en France, Griezmann a fait ce un tweet, je crois, où il a dit « Maintenant, je mange à la menta que Messi et Cristiano Ronaldo ».
Oui, c'était pour le Ballon d'Or, là.
Et ça, je... Pour le Ballon d'Or, voilà. Et ça, je pense que Messi l'a quand même très, très, très mal pris.
On l'a oublié, ça, t'as raison.
Tiens, bon, mais en même temps, je trouve qu'on charge un peu Messi aussi. C'est pas le seul responsable, en tout cas, pour l'instant.
Non, attends, Maxime.
Non, parce que beaucoup parlent de Messi. Valverde fait n'importe quoi au Barça.
Ah oui, non, mais Valverde fait n'importe quoi.
Valverde, c'est quand même le coach, il peut aussi s'imposer et trouver des solutions.
Mais Valverde, il fait. Valverde, il fait ce que Messi lui dit de faire.
Après, je vous dis juste un truc tout simple. Un truc tout simple, les gars. Si tu veux garder ton milieu à trois typique barcelonais, pas de souci. Mais rien ne t'empêche d'inverser le triangle de l'attaque et de mettre Messi et Suarez, Griezmann et Suarez en pointe et Messi libre derrière. Et là, du coup, ça change totalement la donne pour Antoine Griezmann.
Absolument.
Donc oui, Valverde fait n'importe quoi avec le matériel qu'il a à sa disposition. Il est vrai qu'il n'essaie pas de vraiment tirer le meilleur parti de ces trois joueurs extraordinaires.
Absolument. Je suis complètement d'accord. Et moi, je vais te dire une chose, Jonathan. Moi, je m'inquiète pour l'Euro 2020 qui arrive. Parce que, bon, on va voir ce que va donner le mercato d'hiver. On va voir si Giroud trouve un club qui le fera beaucoup plus jouer. On verra comment évolue la situation de Griezmann. Mais lorsque je vois les matchs de l'équipe de France, je vois qu'il y en a beaucoup qui tirent la langue. Il y en a beaucoup qui ont eu beaucoup de mal à digérer le titre de champion du monde, et ça c'est normal parce que ça te donne un nouveau statut.
Il y en a qui étaient jeunes aussi, à l'image de Kimpembe. Il y en a qui étaient jeunes aussi, comme Kimpembe,
mais ils reviennent maintenant. À l'image de Kimpembe, à l'image de Kylian Mbappé, qui fait d'ailleurs, excuse-moi de le dire, mais qui fait à peu près n'importe quoi, qui est en train de foutre sa carrière en l'air. Parce que là, il base tout sur sa vitesse. Ouais, mais comme le dit Michel Platini, ouais,
bon. Il est un peu fort, Maxime, si je peux me permettre.
C'est intéressant ce qu'il dit. Parce qu'en fait, il exagère. T'exagères, Maxime. Faut pas s'acquérir en l'air.
Et même s'il la prend en l'air, elle est déjà pas mal.
C'est vrai qu'il est pas
déjà mal. Le
mec est champion du monde.
C'est vrai qu'il fait un petit peu un mauvais coton ces derniers temps.
Mais voilà, s'il ne fait que baser tout que sur sa vitesse. Moi, par exemple, j'ai joué du rugby. J'avais une certaine vitesse, mais je savais très bien que si je développais pas mes skills, enfin ce qu'on appelle des skills en rugby, donc des passes techniques, cadrage débordement, etc. La troisième mi-temps, bon ça c'est incontournable à tous les âges. Hein. mais je savais que arrivé, je sais pas, j'ai commencé à l'âge de 12 ans, mais passé mes 18
ans. 12 ans, attends, à l'âge de 12 ans, t'as commencé la rue Princesse,
les pentes de bière et tout. C'était Vitoche. Non, les plaquages, c'est interdiction inventée.
Non, je te parlais, je te dis, à 12 ans, t'as commencé la troisième mi-temps, rue Princesse et tout, c'est tôt, non?
Ah non, pas la troisième mi-temps, j'ai commencé à toucher mes premiers ballons. La troisième mi-temps, je crois. Notre première troisième mi-temps, on va dire un petit peu éméché, c'était à 15 ans.
Ça va.
Et Maxime, encore heureux qu'il ait une marge de progression quand même, il a que 20 ans.
Eh oui,
bien s'il était déjà parfait maintenant.
Ce que je veux dire, c'est attention qu'il ne se, entre guillemets, némarise pas trop, c'est-à-dire qu'il ne prenne pas la grosse tête, qu'il ne se prenne pas pour un numéro 10, qu'il n'oublie pas que sa force première, c'est quand même la vitesse, et que s'il souhaite, parce que la vitesse, ça va se perdre avec l'âge, forcément, qu'il développe beaucoup plus sa palette technique, et à ce moment-là, il pourra...
La manière d'en tirer Henri, ouais.
Voilà, exactement. Et ça, je pense qu'il n'aime pas se faire comparer à Henri, parce qu'en fait, on a eu ces espèces de deux ovnis qui étaient Messi et Ronaldo. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les footballeurs, on veut les former un peu à l'image de ces deux-là.
Vampirisés par l'obsession des stats.
C'est ce qu'on disait hier.
Voilà, c'est ça. Drivés par l'obsession des stats, mais qui ne sont pas suffisamment au-dessus du lot pour bonifier l'équipe.
C'est vrai.
Merci Maxime.
Maxime, voilà. Rappelle-nous.
Et donc voilà, d'où ma crainte pour l'euro. D'où ma crainte pour l'euro par rapport à Giroud, par rapport à Griezmann.
On a bien compris. Merci Maxime.
Bonne soirée Maxime.
On essaie de surveiller quand tu veux dans l'after.
Merci beaucoup.
Ciao. On se fait allumer les gars sur Twitter, sur HGRMC Live par une communauté, notamment de fan du FC Barcelone, bien sûr, et de Lionel Messi.
Il faut dire la vérité.
C'est tout.
Mais
plus
en même temps,
nuancé que ça. C'est pas forcément Messi qui choisit les présidents tout le temps. Il y a des socios qui ont leur pouvoir également.
On incrimine autant Griezmann sur ses choix, sur
son attitude,
la façon dont il est arrivé.
Son attitude. On l'a bien rejeté sur Griezmann aussi. Donc non. Et parfois, faut se laver les oreilles et écouter, en fait, l'intégralité de nos propos. Tout n'est pas blanc, n'est pas noir. Et quand on essaie intelligent, on essaie de voir un petit peu les nuances de gris. Et parfois, sur Twitter, les gens ont tendance à sortir un bout de ce qu'on dit, à déformer totalement le propos. Non,
oui,
les gars,
mais c'est intéressant.
Écoutez un petit peu en entier ce qu'on
raconte. Écoutez aussi la parole de tout le monde, des gens qui nous écoutent.
Mais que l'animation offensive du Barça est une responsabilité dans la mauvaise intégration de Griezmann.
On l'a dit aussi.
Ça compte aussi.
Eh oui.
Voilà pour Antoine Griezmann. On a encore un gros programme, les gars. On est ensemble jusqu'à minuit. Il est que 23h20. Bien sûr, dans un instant, on sera avec Simone Rovera, bien sûr, pour évoquer la Squadra Azzurra. Je donnerai également les résultats de la zone Afrique. Qualification de la CAN, bien sûr.
Qu'est-ce qu'a fait le Maroc?
0-0. Ah, le Maroc de Vaïd a fait 0-0 face à la Mauritanie. Tiens, la Tunisie a battu la Libye 4-1 avec un doublé de Kazri et un doublé de Kawi également.
La Libye.
Et face à la Libye, bien sûr.
Ah oui, comme l'impression que.
Tu dis quoi, hein?
Kazri, Rawi.
Ah oui, mais tu
comme, comme l'impression que l'arrivée de Claude Puel lui a mis un petit coup de fouet à Wabi.
Wabi Kazri, voilà. La Tanzanie a battu la Guinée équatoriale 2-1. 0-0 entre la Zimbabwe et le Zimbabwe et le Botswana. Ce soir, qualification donc pour la CAN 2020. Voilà, à tout de suite avec Jonathan McCarthy, Ludovic Obraniak. Et puis n'oubliez pas le quiz, appelez-nous au 32-16 pour essayer de gagner ce quiz, soit avec Jonathan, soit avec Ludo. À tout de suite.
RMC, l'After Foot, Nicolas Jamain.
Et oui, l'After est là, comme tous les soirs, à la radio sur RMC et à la télé sur RMC Sport News. Jonathan McCarthy, Ludovic Obraniak, casting du vendredi soir, casting du samedi soir également. On sera là demain soir ensemble, messieurs, pour un after de 3 heures. Ça s'appelle un grand after, bien sûr.
Le grand after de l'élégance.
Oui, si tu veux. Donc chemise obligatoire demain, Ludo, c'est samedi soir. Bah, Saturday night.
Polo, ça va.
Est-ce que tu as déjà réussi à m'imposer quelque chose?
Je suis Lionel Messi. Simone Rovera est avec nous. Ciao, Simone.
Fais gaffe, il y a des pro Barça là qui.
Ah, c'est.
Ciao, bon après toi.
On a gagné en haters ce soir sur le FC Barcelone. Salut Simone, heureux de t'accueillir, bien sûr. Alors attends, avant d'évoquer l'Italie, bon, effectivement, qui a dominé un groupe. Très largement, mais un groupe relativement faible.
À sa portée.
Largement à sa portée. Je voulais dire, Cavani, messieurs, Edinson Cavani, son agent, qui avait un intérêt à parler forcément à quelques jours, quelques semaines de l'ouverture du marché d'hiver, bien sûr, qui a répondu à un média italien, Simone, je ne sais pas si tu as lu ça, qui a dit, oui. Voilà, quelques déclats, il ne partira pas cet hiver du PSG. C'est Walter hein, Guglielmone, son ouais. agent. Il a dit également, nous ne sommes pas très inquiets pour la prolongation au PSG.
Oula.
Tu as dit quoi, Simone?
Qui est son frère, son demi-frère.
Ouais, son demi-frère, exactement. Eddie aura sûrement de nombreuses opportunités et surtout, il sera gratuit, je veux dire, à la fin du contrat. Il dit également à la question, un départ au Los Angeles Galaxy, il y a toujours des discussions. Pour l'instant, il n'y a rien. J'adore ce genre de déclaration. Ah, oui. Ensuite, voilà.
Pour être logique, les gars, il est en fin de contrat.
Mais oui, non, mais les gars,
il prolonge, il se casse en prenant une énorme prime à la signature.
Et son agent, voilà. Que de sa famille, avait intérêt à parler également, mettre la pression sur le Paris Saint-Germain. Simone, non, on n'en parle pas en Italie, de Cavani, là.
S'il parle de lever l'option d'Icardi, il partira forcément.
Simone, Cavani en Italie, est-ce que c'est un sujet ou pas?
C'est pas un vrai sujet de discussion. C'est pas un sujet nouveau pour l'instant. Il n'y a pas de pistes concrètes pour lui. Mais en deuxième partie de saison, quand il sera beaucoup plus proche de sa fin de contrat, c'est sûr qu'il y aura plusieurs rumeurs sur lui, sur une hypothèse de retour à Naples. Moi, depuis plusieurs années, il y a quelques années, quand j'avais fait un entretien avec lui, il m'avait dit que moi, je veux partir gratuitement. Mais c'était il y a déjà 2 ans. Je vais partir à la fin de mon contrat avec le PSG en 2020 et après, pourquoi pas retourner à Naples. C'était une suggestion il y a quelques saisons. On verra dans les prochains mois si ça peut devenir quelque chose de concret. Aujourd'hui, Naples, imaginez, est une des clubs qui est chaud ou quand même très intéressé au dossier Ibrahimovic, même si c'est très âgé.
Eh oui.
38 ans, très âgé. C'est âgé pour un footballeur.
Tu dis vraiment
mais
très
c'est toujours
intéressé.
Un joueur.
Ah oui, oui.
C'est très intéressé parce que les relations entre Carlo Ancelotti et Zlatan Ibrahimovic sont exceptionnelles. Et au-delà du projet, on peut dire sportif, Ibra voudrait vivre quelque chose que lui fait vivre bien sa dernière grosse aventure en Italie ou dans les
football. Ça lui correspond totalement.
Et les trois pistes qu'il y a aujourd'hui en Italie.
Je disais, Simone, le Napoli lui correspond totalement. Comme club, à Zlatan.
Ça peut lui correspondre beaucoup, la passion des supporters, de la ville, mais surtout Carlo Ancelotti. Les autres deux pistes sont de Milan, qui est un peu son club de cœur. Et l'autre, c'est Bologne, parce qu'il a une relation très étroite avec Siniša Mihajlović. C'est l'entraîneur serbe qui cherche de les convaincre à accepter. Donc, c'est vraiment pas une question d'argent pour un retour possible, probable peut-être, d'Ibra en Italie. Mais c'est un projet sportif et surtout quelqu'un qui le veut vraiment et qui va lui donner la possibilité de s'exprimer pour cette dernière 6 ou 18 mois de contrat.
Tiens, on parlera de Carlo Ancelotti avec toi dans un instant, bien sûr. Simone devait être à Paris demain matin, finalement le Napoli lui dit non, reste en Italie. Tiens, d'abord, messieurs, Brésil-Argentine, énième match délocalisé. Le Brésil, ouais, cette saison, cette année 2019, c'est 10 matchs amicaux.
Dans un pays très démocratique.
8 hors du Brésil. Là, c'était face à l'Argentine. Du coup, ça donne quoi au King Saud University Stadium. 22 000 spectateurs. Voilà, beaucoup de footix dans le stade, on l'a vu. Hein. Des maillots argentins portés par des locaux, des maillots brésiliens portés par des locaux. C'était pour l'argent, hein. 1 800 000 euros qui arrivent dans les caisses de la fédération brésilienne. C'est devenu ça aujourd'hui. T'imagines ?
C'était surtout le match de retour
que la France soit préservée avec ça, quoi. Vraiment.
Ouais,
quoi.
Exactement. Et surtout d'aller faire des matchs dans ce genre de pays. C'était le match
de retour. Ça, évidemment, c'est très discutable, c'est même condamnable.
Oui.
Vas-y, Jonathan.
Match de
1-0,
retour.
Messi. Penalty, 14e minute. Gabriel Jesus avait loupé le sien à la 9e.
Ouais. Match de retour de Lionel Messi.
3 mois de suspension.
Voilà. Donc, c'est un petit événement au pays. Il suffit de regarder, de parcourir la presse locale pour se rendre compte que les médias avaient les yeux braqués sur Lionel Messi. Même s'il faut dire que ce qui truste l'actualité, c'est forcément la finale de Copa Libertadores que River Plate va jouer.
Bien sûr.
Le 23, samedi prochain.
Fluminense.
Ouais, exactement. Donc voilà, c'est ça qui... C'était quand même un petit événement. Écoute, l'Argentine a fait un match plus que correct. Ces derniers temps, c'est vrai que c'est pas trop mal. L'Argentine revient bien après une Copa América. Allez, qu'on va qualifier en demi-teinte. Il y a des choses qui sont intéressantes dans cette équipe-là. Alors évidemment, t'as l'inamovible Leandro Paredes qui, même s'il a du mal à s'imposer au Paris Saint-Germain, c'est l'homme de base de Scaloni. Et il fait tous les matchs. C'est le premier nom qui couche sur ses feuilles de match. Alors là, ce soir, bon, pour nos amis parisiens, pour leur faire un petit compte rendu de sa
première mi-temps catastrophique.
Il est pas bon en première mi-temps, mais c'est rare pour lui quand il a le maillot de la Biceleste.
Il provoque le penalty, il s'est bien repris.
Mais sinon, un match, le match typique de Paredes en sélection en deuxième mi-temps, c'est-à-dire devant la défense, quasiment troisième défenseur central sur les phases de transition défensive, et toujours à bien distribuer le jeu vers l'avant. Lo Celso qui avait commencé le match, qui lui, pour le coup, on a senti le manque de rythme par rapport à sa saison à Tottenham, par rapport à ce qu'on disait avec les Bleus. Mais surtout, il faut dire qu'il y a quelque chose qui a changé dans cette équipe d'Argentine depuis 3-4 matchs, c'est la présence de Lucas Ocampos. On pensait qu'il jouait parce que justement Lionel Messi était suspendu parce que Lionel Messi n'était pas là, et qu'au retour de Lionel Messi, Ocampos retournerait sur le banc. Mais là, aligné un petit peu plus bas sur le terrain au poste de titulaire, il a encore été un des meilleurs, si ce n'est le meilleur argentin sur le terrain. Et c'est pas moi qui le dis. Regardez les notes dans Olé, les notes qui viennent de sortir. C'est le joueur, il me semble, avec Otamendi, qui sont les mieux notés. Alors ça, c'est intéressant. Et surtout, là, je suis un peu long, mais juste quelque chose qui me semble très important, c'est que je pense très sincèrement que l'Argentine a enfin trouvé son gardien. Avec Esteban Andrada, le gardien de Boca Juniors, qui est très jeune, mais qui est très bon, et qui, voilà, même s'il est encore, il est perfectible, c'est un gardien qui est très jeune, et tu sais que ça met un peu de temps à acquérir l'expérience, et que, voilà, c'est un très bon gardien, et je pense qu'il va s'installer dans les cages de l'Argentine pour les années à venir.
Non, ouais, c'est j'ai vu une belle équipe d'Argentine, avec de l'envie, une ambition d'aller étouffer cette équipe du Brésil avec une défense qui allait chercher, qui décrochait, qui suivait les décrochages de Firmino. Que dire, j'ai vu De Paul au milieu qui a fait un match exceptionnel dans l'agression, le pressing,
il a été
très très bon. On peut souligner aussi le match d'Ocampos, malgré le fait qu'il ait un arrière droit qui soit pas
catastrophique,
qui soit pas terrible.
Genre en one fight, c'est pas un latéral droit, c'est vraiment pas terrible. Il est pas droit parce qu'il est
et puis aussi bon, tu parlais de joueurs qui métamorphosent la sélection, le match de Lautaro Martinez est quand même aussi assez incroyable tout seul devant. J'ai trouvé parfait. Après, Messi a pris les choses en main de manière cyclique. Je trouve qu'il a fait un bon match de retour. Il a été assez présent, bien physiquement, bien dans ses pompes, quoi. Tu sentais qu'il est content d'avoir cette équipe là autour de lui. Donc tu te dis quand même que sur le banc, il y avait Di Maria, il y avait Dybala, Icardi est pas là.
Ouais,
tu vois, tu te dis qu'il y a encore des
mais surtout ce qui m'intéresse
Icardi
en fait.
Sera pas là.
Non, ça c'est sûr.
Si Scaloni a dit cette semaine qu'il lui laissait la porte ouverte. Il a été très.
Ça,
il a...
Rien de dire ça.
Alors après, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est qu'au-delà des noms très voilà très connus que Ludo vient dégrainer, il y a aussi l'entrée de Lucas Alario que je trouve intéressant de par son profil. Ouais. Rappelez l'ancien avant-centre de River Plate que beaucoup comparaient à David Trezeguet, qui joue à Leverkusen et qui est un voilà, il change vraiment du registre d'attaquant que l'Argentine avait, c'est-à-dire que lui c'est un Giroud. Pivot, grand, bon de la tête, capable de faire jouer les autres. Et il y a des joueurs, une nouvelle génération de joueurs qui sont en train d'arriver. Je pense à un qu'on n'a pas vu, qui est Alexis McAllister, qui fait le bonheur de Boca Juniors, qui a un vrai beau potentiel.
C'est un cousin,
non,
McAllister.
Mais il est d'origine irlandaise aussi. Et voilà, ce qui c'est intéressant. Et au final, pour moi, mon dernier mot là-dessus, c'est que Scaloni était arrivé un petit peu comme allez, le pansement sur la jambe de bois. Il a été confirmé. Et au final, si c'était pas l'homme idoine pour relancer l'Argentine.
Par contre,
relancer avant la Copa América 2020, c'était en Argentine et en Colombie.
À prendre en compte aussi un Brésil très faible. Très, très faible.
Et sans Neymar, encore une fois.
Avec des joueurs, franchement, quand tu te souviens de ce qu'est le Brésil en termes de QI football, t'as des joueurs dans cette équipe tu te poses la question, honnêtement, William, c'est un très bon joueur. Pour ce qui est du QI football, honnêtement, c'est à se poser des questions. Gabriel Jesus, pareil. Tu te dis comment Gabriel Jesus il peut être numéro 9 du Brésil. C'est
après je m'inquiète pas pour
Fred, numéro 9 du Brésil.
Fred il était bien plus fort que Gabriel Jesus.
Le bilan de Tite à la tête du Brésil est quand même plus que excellent et je pense que voilà c'est un match sans. Mais c'est une bonne équipe.
Voilà pour Brésil Argentine. Je rappelle été prochain il y aura beaucoup d'actu. L'Euro 2020 il y a la Copa América.
La dernière
2020,
chance pour Messi de gagner un trophée enfin avec la sélection peut-être.
Exactement. Pose pas la question c'est même clair. Quoi.
Peut-être la Coupe du Monde
il va y aller à la Coupe du Monde.
À condition de se qualifier, bien sûr. Simone, on parle de l'Italie. Ton Italie, où tu te trouves actuellement, qui s'est imposée aujourd'hui, ce soir, 3-0 sur la pelouse de la Bosnie-Herzégovine. Acerbi, Insigne et Belotti sont les buteurs italiens. Ça fait 9 matchs en qualif pour l'Euro. Ils sont déjà qualifiés, les Italiens, bien sûr. 9 victoires pour cette sélection italienne. Je rappelle que la Finlande, dans ce groupe, s'est qualifiée également ce soir et prendra la deuxième place. Simone, bon, déjà sur le match de ce soir, là, comment t'as trouvé ta squadra azzurra?
Je l'ai trouvé très bonne, vraiment très intéressant parce que c'est vrai qu'en face il y avait une Bosnie qui avait plus rien à jouer, qui va jouer peut-être, sûrement sa qualification avec les barrages
de Ligue des Nations,
ayant gagné son groupe de Nations League. Mais c'est vrai que l'Italie, elle aussi, n'avait pas grand-chose à gagner. Oui, elle cherchait de battre des records. Avec cette victoire, elle est même sûre d'être tête de série. Mais elle a fait un match très correct, très offensif. Elle a marqué des buts, elle a eu plein d'occasions. La Bosnie aussi a eu des bonnes occasions. On a trouvé une super, encore une fois, du jeu de Donnarumma, qui, en parlant de gardien avant, ça reste... Jonathan parlait de l'Argentine qui a trouvé finalement un bon gardien.
Ouais.
L'Italie aujourd'hui, s'il y a une chose, un rôle où il y a plein de bons gardiens, un rôle plein de bons joueurs, c'est les gardiens de but avec Donnarumma, Sérigo et Meret, les gardiens de Napoli. Mais Donnarumma, on a l'impression que chaque match en sélection, il confirme sa supériorité. Et parfois avec Milan, il n'est pas extraordinaire. Moi, je suis quelqu'un qui... pendant la saison, on a dit plusieurs fois que je voudrais bien, et je verrais bien Sérigo titulaire en sélection, mais c'est vrai que Donnarumma fait vraiment souvent des sans-fautes en sélection, et ce soir a été encore très très bon. C'est difficile de trouver vraiment un meilleur sur le terrain en première mi-temps, c'était très bon Bernardeschi, qui était un peu moins bon en deuxième mi-temps. Belotti fait un match, comme d'habitude, un vrai guerrier sur chaque ballon. Les vrais avant-centres de cette sélection qui est parfaite pour Roberto Mancini. Mais globalement, il n'y a pas grand-chose à dire. L'Italie a été supérieure. Et c'est vrai que les groupes ne font pas rêver. Mais la Bosnie, c'est la Bosnie des Dzeko, des Pjanic. C'est une Bosnie qui a été une surprise de l'Europe avec l'Islande sur la dernière saison. Et personne ne pouvait imaginer qu'aujourd'hui, c'était avant-dernière de son groupe.
Bien sûr.
Et que l'Italie a fait quand même un bon parcours. 9 victoires, c'est extraordinaire. C'est à 10 victoires consécutives, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'Italie. C'est 28 buts marqués quand même. Donc, c'est une Italie qui, en qualification, rarement, on avait vu si bon. Et tout ça, en presque un an de travail de Roberto Mancini.
Et du coup, Simone, est-ce que l'espoir est permis? Est-ce qu'on se remet à rêver d'une grande Italie à l'Euro 2020?
Ce soir, il y avait des questions aux joueurs après les matchs, dans les matchs diffusés sur la RAI en Italie. C'était, est-ce que vous vous sentez des favoris? personne, bien sûr, dit ça. C'est vrai que seulement la Belgique a fait parcours net pour l'instant. Mais il y a un vrai enthousiasme. Aujourd'hui, dire favori pour l'Euro, c'est compliqué, c'est très loin. Il nous manque des top players dans certains rôles. Mais l'Italie montre d'avoir du caractère et des joueurs qui savent jouer bien au football. Et ce soir, on n'avait pas Marco Verratti, il n'y avait pas toujours Giorgio Chiellini qui devrait revenir, donc des joueurs clés de cette sélection. Moi, je suis confiant. Après, gagner un Euro, il faut toujours quelque chose.
Évidemment.
En plus, imaginez notre petite statistique. Aujourd'hui, avec l'entrée en jeu de Castrovilli, milieu de la Fiorentina, et Gollini, gardien de l'Atalanta, on est à 22 joueurs qui ont débuté avec Roberto Mancini en sélection. On peut dire en 2 ans. Pour vous expliquer les renouveaux qu'il est en train de faire, ces sélectionneurs, dans la sélection italienne.
Voilà pour la sélection italienne, hein, qui sera non seulement qualifiée, mais également assurée les têtes de série, donc dans le chapeau 1 pour le tirage au sort le 30 novembre prochain à Bucarest. Tout à l'heure, on préparait l'émission, effectivement, tu nous disais, Simonet, que le match de l'Italie, bon, intéressait le pays, mais la une des journaux, c'était Ronaldo.
Ben oui, c'était pratiquement sur tous les journaux Ronaldo, sur un des 3 quotidiens sportifs, la Gazzetta, il y avait une rumeur de Mercato qui part de Donnarumma peut-être à la Juve, mais pour le reste, il y a du Ronaldo partout. On dirait que oui, Cristiano aujourd'hui fait plus vendre ou intéresse plus que la sélection italienne. Et c'est vrai qu'il y a quand même son triplé d'hier. Moi, je suis sincère, je ne sais pas depuis combien de temps je ne regardais pas un match du Portugal en qualification. Peut-être c'est une de mes premières fois. Nico Villas va ne pas être très content parce qu'il nous écoute tout le temps. Désolé Nico, mais j'ai regardé le Portugal parce que je voulais savoir est-ce que Cristiano va bien ou pas. Et c'était transmis en clair sur une chaîne commerciale italienne avec des bons résultats d'audience. Donc pour vous dire, déjà tous les supporters italiens étaient inquiets, de la Juve était inquiète, et le monde du journalisme sportif s'est demandé est-ce qu'il y avait vraiment un problème au genou pour faire sortir Ronaldo après 55 minutes face au Milan, est-ce qu'il y avait un problème entre lui et Sarri. Et aujourd'hui, on a vu quand même que la presse s'était un peu partagée entre les grands retours de Ronaldo qui est plus fort de ses soucis au genou et ceux qui se demandaient, mais est-ce qu'il avait vraiment mal?
Eh oui.
Donc, il y a un vrai débat ouvert en Italie. Est-ce que c'est la faute de Sarri? Est-ce que c'est une mauvaise gestion pour l'ensemble de Sarri de l'ego de Cristiano? Est-ce que Cristiano, quelque chose se passe très bien, pas trop bien à la Juve? Aujourd'hui, imaginez qu'un quotidien sportif, quotidien et pas sportif, politique comme La Repubblica, qui est le quotidien le plus vendu en Italie, le plus lu, faisait un titre dans les pages sportives. Mais quelle était la blessure? Et parler d'un départ qui pourrait arriver à la fin de l'année pour Cristiano.
Ah ouais, quand même. On est là quand même déjà. Enfin, c'est vraiment très tendu entre Sarri et Ronaldo ou pas?
Il y a plusieurs. C'est difficile à dire parce qu'il y a 2-3 semaines, dans la conférence de presse qu'il a fait avant les matchs face à la Locomotive en Ligue des Champions, Cristiano, assis à côté de Sarri, il rigolait, il disait qu'il se trouvait bien, cette nouvelle Juve qui joue offensif. C'est difficile de penser que dans 2-3 semaines, les choses ont régressé. Mais Cristiano Ronaldo est sorti 2 fois sur 2 matchs. Et une fois après 55 minutes de jeu. En Ligue des Champions, il est sorti à la 92e. C'était la première fois en 5 ans qu'il sortait avant la 85e. C'est difficile de trouver quelqu'un qui met Ronaldo à la même place que les humains. Et Sarri est en train de le faire. Je ne sais pas si Cristiano va.
Il est en train d'humaniser Cristiano Ronaldo alors que lui ne se considère pas forcément comme ça. Ouais.
Je ne sais pas, Zidane n'avait pas réussi avec un peu de. Avec un peu plus de douceur à faire passer le message à Cristiano pour le faire se reposer quelquefois aussi.
Ce que nous a expliqué Fred Hermel, c'est qu'ils se sont parlé souvent, ils ont trouvé des accords.
Bien sûr, j'ai plein d'accords. Sarri, pas l'impression que ce soit comme ça.
Ouais. Sarri, il est moins dans la discussion que Zidane.
Ouais, un peu moins diplomate peut-être quand même.
À partir du moment où il n'explique pas comment il faut tirer les coups francs, par ça, après, ça devrait bien se passer.
Merci Simonet.
Ciao Simonet.
Aujourd'hui, certains journaux parlaient d'une réponse de Cristiano Ronaldo à Sarri. Donc, il y a vraiment presque des positions qui sont en train de naître en Italie. Les pro Sarri, les pro Ronaldo.
et ça va être une belle saison.
C'est peut-être que le début d'un feuilleton
intéressant.
C'est surtout l'état d'esprit du garçon, quoi. C'est-à-dire que il se sent vexé d'être sorti à 55e.
Oui, mais ça va.
Non, mais c'est génial. Je trouve ça génial. De...
Oui, mais à la fois.
Non, mais d'aller claquer un triplé comme ça à son âge, avec ce qu'il a fait, d'avoir encore aussi fin, une telle envie de prouver tout le temps.
Mais j'imagine l'obsession.
Je trouve ça génial.
S'il faut le gars qui va revenir avec la Juve, claquer un triplé au prochain match. En Serie A. Oui, mais après, ce qui est moins beau, c'est que bon, voilà, t'as raison, c'est il est vexé, c'est un joueur génial, fantastique. Il a quitté le stade, c'est pas forcément nécessaire, il a lâché des coéquipiers.
Et ça, ok, voilà. Mais à son âge, c'est quand même.
Oui, mais c'est un joueur extraordinaire, évidemment. Merci, Simonet.
Bonucci a bien expliqué qu'il y aura une confrontation au retour de la sélection.
Il va devoir expliquer.
Capitaine de la sélection italienne, Bonucci l'a dit, on aura le temps de faire une confrontation quand il reviendra. Donc,
j'aime bien si l'idée qu'il y a
la Juve. Je pense que les joueurs sont à l'écoute. Ouais.
Le traite comme, pas comme le joueur classique, mais qui a quand même une autorité, qui a un club qui affirme son autorité aussi parfois. Merci Simonet, excellente soirée à toi.
Ciao, à très vite.
L'after, dans un instant, avec Ludo Bragnac et Jonathan McCarty. L'after continue, bien sûr, sur RMC. Pour le quiz, appelez-nous 32-16. Un de vous sera sélectionné pour essayer de gagner deux places au Parc Astérix. A tout de suite.
RMC, l'after foot, Nicolas
Jamain. Et oui, avec Jonathan McCarty, avec Ludovic Obraniak. C'est l'heure du quiz, messieurs. Et on accueille Arthur Robert.
Bravo.
Producteur de l'Armistice de l'Élégance, qui malheureusement ne porte pas la chemise de l'Élégance.
C'est vrai. C'est un scandale. Je vais faire un effort pour la première. Mais les casquettes Lacoste, même pas.
On rappelle que tu vas accueillir notre auditeur.
Adepte du vice et du mensonge.
C'est le plus grand tricheur de l'histoire de mon petit gazon, il faut le dire.
Il y a Jérôme Thomas la semaine, il y a Arthur Robert le week-end. Oui. Voilà. Quentin, salut Quentin, bienvenue dans l'After.
Bonsoir monsieur.
Salut Quentin.
Je rappelle, on rappelle ce qui a gagné Arthur quand même.
Deux places pour le parc Astérix à Noël.
Eh oui, à Noël. Donc Quentin, voilà. Si tu choisis la bonne personne,
c'est Ludo et Obélix,
tu gagneras deux places pour le parc Astérix. On te laisse choisir la team Jonathan, la team Ludo ou la team moi.
Jonathan.
Allez Jonathan. Messieurs, je tiens juste à rappeler, pas de triche, hein. Monsieur Obraniak, vous êtes prévenu.
Alors, moi, première question. Retournons les téléphones, messieurs.
S'il vous plaît.
Mais tu es mon maître, hein. Tu le sais.
Monsieur Ludo, Obraniak, le téléphone. Voilà. Ils ont tous les deux retourné leur téléphone. Première question. Alors, on débute. Le point commun entre Faubert, Govou, Payet.
Numéro 10.
Et Daniel Moreira. Ils ont tous porté le numéro 10 en équipe de France. Un point pour Jonathan. Deuxième question. Alors, c'est une enchère. Combien de joueurs avec plus de 95 sélections en équipe de France pouvez-vous me citer ? Combien de joueurs avec plus de 95 sélections en équipe de France pouvez-vous me citer ? Il y en a 10. Hein. Du coup, si vous dépassez, c'est qu'il y a un problème. Jonathan.
4.
Nico.
5.
5. Monsieur Obraniak.
6.
6. Jonathan.
Je laisse.
6. Tu laisses. Nicolas Jamain. 6. 7. 7.
Je laisse.
7. Monsieur Jamain.
Lilian Thuram.
C'est bon.
Didier Deschamps.
C'est bon.
Laurent Blanc.
C'est bon.
Marcel Desailly.
C'est bon.
Olivier Giroud.
Olivier Giroud, c'est bon.
Je passe.
On est à 5. On est à 5.
Zinedine Zidane.
Zinedine Zidane, c'est bon. Et il m'en manque un dernier.
Thierry Henry.
Thierry Henry, c'est bon. 3
Allez
points.
Bravo. 3
points pour monsieur Jamain.
Ah bon, ça vaut 3.
Bien évidemment, les enchères, ça vaut 3. Les enchères, ça vaut 3.
C'est plus dur.
Je refais le point sur les scores. Nicolas Jamain, 3 points. Jonathan, 1 point. Ludovic Obraniak, 0.
Attends, les 3 derniers, c'est qui les 3 derniers qui a pu.
Alors, les 3 derniers, effectivement. Vicente Lizarazu,
ouais,
avec 97 sélections. Hugo Lloris, 114. Et Patrick Vieira, 107.
Ah ouais.
Je l'avais pas mis. Lloris, évidemment.
Troisième question. Qui est le meilleur buteur sur pénalty de l'histoire de l'équipe de France?
Giroud.
Non.
Zidane.
Griezmann.
Non. Griezmann. C'est bon.
Bien joué.
Un nouveau point pour Jonathan. 3 points pour Nicolas. 2 points pour Jonathan. 0 pour Ludo. Un kiki crack. 3 points en jeu, messieurs. Ah. Les sélectionneurs des Bleus. Ludovic, tu commences.
Faites long.
Les sélectionneurs de l'équipe de France.
5.
Pas une enchère,
attention,
Nico.
Je dois dire un nom.
Didier Deschamps.
Didier Deschamps, c'est bon.
Bon, on va commencer par Jonathan. Ça, Jonathan.
Jonathan.
Laurent Blanc.
Laurent Blanc, c'est bon.
Michel Platini.
Michel Platini, c'est bon.
Domenech.
Domenech, c'est bon.
Aimé Jacquet.
Aimé Jacquet, c'est bon.
Roger Lemaire.
Roger Lemaire, on est bon.
Henri Michel.
Henri Michel, c'est bon.
À moi.
Jonathan.
Gérard Houllier.
Gérard Houllier, c'est bon.
Michel Hidalgo.
Michel Hidalgo. Attention, ça commence à se compliquer. Allez, 5, 4, 3, 2.
Attends.
1. Élimination. Jonathan.
Santini.
Santini, c'est bon.
Oh, bien joué, Jean. Santini.
Nicolas.
José Arribas.
Si, si.
C'est bon.
Notre auditeur, on en a pas un, là.
Non, absolument.
Il n'y a pas le droit là-dessus. Non, là-dessus, il n'y a pas le droit. Trop long.
Allez.
J'ai au pif, je ne suis vraiment pas sûr. Hein. Non, je sais pas, Djorkaeff.
Non,
terrible.
Non, mais c'est pas tenté.
Yuri Djorkaeff,
c'est Jean.
Non. Jean, mais j'ai gagné parce que juste Fontaine a été sélectionné dans l'équipe de France deux matchs.
Oh merde. Et lui, il gagne que 3 points.
Henri Guérin. Henri Guérin.
Donc j'ai gagné, hein.
Oui, t'as gagné 3 points, donc ça fait 6 points pour Nicolas Jamin, 2 points pour Jonathan McCardy et 0 pour Ludovic Obraniak.
N'importe quoi, les 6 points, c'est 2 et 2, il a 2 points.
Pour te rattraper. Messieurs, il faut trouver le point commun entre Costil, Corchia, Ali Sissoko, Chantôme et Lionel Charbonnier. Le point en commun entre Corchia, Costil, Ali Sissoko, Chantôme et Lionel Charbonnier. En équipe de France.
C'est qu'on se par un C.
Équipe de France, un point en commun. Non, ça n'est pas.
Ils sont jamais rentrés en jeu.
Une sélection.
Ah. Bien joué. 3 points pour Jonathan McCarthy. 6 points pour Nico Jamin.
Celui-là, il
ne
vaut pas 3 points.
On est toujours à 0.
Non, mais c'est truqué, t'inquiète pas, c'est Jamin.
Vas-y.
Alors, messieurs, quel joueur possède la sélection la plus courte de l'histoire de l'équipe de France?
Jorietti, c'est bon.
5 secondes, c'était face à Chypre le 12 octobre 2005. Franck Jorietti.
Non, mais international.
Voilà. On est à 4 points pour Jonathan McCarthy, 6 points pour Nicolas Jamin et 0 pour Ludovic Obraniak.
Il reste une minute.
Une minute, on va terminer par une enchère.
Aïe.
On va terminer par une enchère, ça permettra à potentiellement Jonathan de remporter le quiz. L'enchère, combien de joueurs de l'équipe de France ayant remporté la Coupe du Monde 98 et l'Euro 2000, vous pouvez me citer. Combien de joueurs de l'équipe de France ayant remporté l'Euro 2000 et la Coupe du Monde 98, vous pouvez me citer. On va débuter par toi, Nicolas.
Bah, on va commencer à 2.
2.
Commence en bas.
Ludovic.
5.
5.
Tu devrais.
6. 6.
Ouais, 7.
Ouais.
8.
8.
Moi j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, j'en avais 12.
12.
Et pourquoi vous allez si haut tout de suite?
Parce que
12. Nicolas.
13.
13.
Je laisse.
Très bien. Jonathan.
14.
14. Je tiens à dire qu'il y en a 18. Hein. On peut pas dépasser 18. Hein.
14.
Nicolas.
Tu les as les 14?
Ouais, si je les proposais, mon psy. Ah, mon ami. Merde.
Alors?
Bah, vas-y, parce qu'il est tard. Vas-y.
Et bah, vas-y.
Je t'écoute.
Allez, j'attends.
Barthez.
C'est bon.
Lama.
C'est bon.
Blanc.
C'est bon.
De Sailly.
De Sailly, c'est bon.
Leboeuf.
Leboeuf, c'est bon.
Lizarazu.
Combien, là?
Lizarazu, c'est bon.
Thuram.
Thuram, c'est bon.
Didier Deschamps,
c'est bon.
Emmanuel Petit.
Petit, c'est bon.
Patrick Vieira,
c'est bon.
Robert Pires,
ouais. C'est bon.
Thierry Henry. David Trezeguet.
Oui.
Zinedine Zidane.
C'est vraiment... Tu vas voir Ludo alors, par Castérix.
C'est magnifique. Victoire de Jonathan McCardy. 7 points.
J'ai laissé.
7 points contre Nicolas Jamin.
Pour Quentin, j'ai laissé.
7 points. Nicolas Jamin, 6 points.
Victoire de Quentin. 2 places pour le parc Astérix.
Merci beaucoup.
Merci,
merci
Thomas, quand
Nicolas
tu veux.
Gagne, du coup, d'avoir laissé ça.
Mais il n'a pas laissé, non, arrête non, de non, croire pas.
Très honnête, j'en avais 15, mais bon, c'est pas grave. Bon séjour au parc Astérix, Quentin, excellent soir.
J'en ai plein d'autres.
Tu reviens quand tu veux dans l'after, enfin, restaurant Jean-Jorkaeff, sélectionneur, c'est magnifique. Merci Arthur, excellent quiz.
Est-ce que Jean-Jorkaeff, sélectionneur, ça ne peut pas enlever? Ça ne peut pas faire moins de.
Chouki, Jonathan à demain, Ludo à demain également. After le 3h, grand after demain, appelez-nous également. Merci Arthur, excellente soirée.
So you call yourself a fan? But tell me something. Do you know your Bachmans from your Abrahams? Or your Jepsons from your Klopps? The People's Club needs all its people. You never walk alone, and neither should they. It's only united when we are. Get the idea? Because when you support a club, you support all of it. Watch the Barclays FA Women's Super League on Sunday, the 17th of November. Visit the FA.com/Women's Football Weekend. It's all to play for.